Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez le nouvel épisode de Coup Critiques, l'émission qui parle de vos livres, BD, mangas préférés toutes les deux semaines. Je m'appelle Aeva, j'ai avec moi Joachim et Mélouane.
Bonjour.
Désolée, j'ai oublié d'activer les micros.
Bonjour.
Bonjour.
On est tous les trois membres de la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne. Aussi appelé BDBDEC. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission. On commence tout de suite avec une discussion autour de nos dernières lectures. C'est parti. Je donc démarre avec Joachim. Parle-nous de ce que tu as lu récemment.
Alors, récemment, j'ai lu Lou Sonata, tome 2. Je l'avais raté à sa sortie et du coup, j'ai lu tout récemment. Et c'était très très bien, comme d'habitude, parce que c'est Lou. Alors Lou, qu'est-ce que c'est du coup? C'est l'histoire au début d'une jeune fille, une petite fille, dans un pays qu'on ne connaît pas trop, mais qui ressemble beaucoup à la France quand même. Et on la voit grandir en fait, au fil des épisodes. Et au début, ça paraît dans le magazine Cho en 2004, aux côtés d'autres personnages comme Titeuf ou Ragnarok. Et voilà. Et donc au début, c'est des petites histoires qui se suivent. Il y a de la continuité dans l'histoire, mais au fil des tomes, ça devient de plus en plus structuré, ça devient des vrais récits. Et pourquoi je trouve que Lou, c'est vraiment très très bien, et pourquoi j'aime beaucoup Lou, parce que ça me parle énormément en fait. Ça représente vraiment, la vie que j'avais quand j'étais adolescent. Et puis quand même quand elle grandit, ça continue en fait à suivre un peu ce qu'on vit dans les derniers tomes, là, de Lou Sonata. Elle fait des projets avec ses amis, donc je veux dire, c'est pour moi, j'ai l'impression que Lou grandit en même temps que moi, et du coup ça me fait beaucoup plaisir de lire cette BD à chaque fois qu'il y en a un qui sort, parce que d'ailleurs la BD commence en 2004, comme moi je suis né, voilà. Fun fact. Et du coup j'ai découvert au collège, et petit à petit à chaque fois qu'il y a un Lou qui sort, en plus j'ai toujours le bon âge, et du coup voilà, j'aime beaucoup.
D'accord, et comment dire, quand on parle de Lou, on parle bien, alors moi j'ai que en tête la série, je crois, qu'il est sorti, où t'as Lou et sa grande sœur, et c'est très...
Alors, non, du coup, genre, il n'y a pas de grande sœur. Lou vit tout seul avec sa mère.
Ok, d'accord.
Un chat, et sa grand-mère très, très sympathique, sa grand-mère qui vient de Mortebouze. Et donc, parfois, elles vont avec sa mère en vacances à Mortebouze, qui est un super village incroyable, avec pas de réseau. Et donc, ouais, non, elle vit tout seul avec sa mère, son père est parti avant sa naissance. Okay. Elle a une amie d'enfance. Elle a un crush qui habite dans l'immeuble d'en face au début. Puis au bout d'un moment, c'est plus trop un crush, puis ça redevient un crush. Enfin, il y a des histoires intéressantes qui se passent.
Ouais, c'est l'histoire d'une vie, quoi.
C'est vraiment très tranche de vie, et je trouve qu'on peut vraiment s'y retrouver très facilement dans tous les personnages. Il y a des dramas, il y a par exemple au collège les premières disputes entre amis qui ont lieu, et voilà.
Ouais, je vois. Et qu'est-ce qui te donne envie de, genre, à chaque fois reprendre la BD? Parce que, enfin, c'est juste qu'une vie entière, au bout d'un moment, c'est... Qu'est-ce qui t'a fait t'attacher à Lou pour que tu te dises, je vais lire sa vie entière, en fait?
C'est bien écrit, c'est bien dessiné. Je sais pas, genre, on a toujours envie de savoir ce qui s'est passé après. C'est vraiment pas difficile à lire. Au début, le dessin est un peu mignon, un peu cartoon, mais plus elle grandit, plus le dessin mûrit en même temps, parce que je pense que, j'ai pas dit le nom d'auteur, c'est Julien Nil. Julien Nil progresse, je pense, dessine de plus en plus, est de plus en plus à l'aise avec son crayon.
Oui.
Et voilà.
Ça fait 20 ans qu'il écrit.
Ouais.
C'est vrai que.
C'est vrai que Lou, j'ai lu un petit peu quand j'étais plus jeune et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais c'est vrai que je me rappelle que j'aimais beaucoup, surtout, en fait, ça, les dessins. J'aimais bien. Puis il y a tout le truc, je crois, au début, avec pas genre un journal intime, quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai, oui, j'ai pas parlé.
Et il y a toute une histoire de journal intime. Moi, j'aimais bien comment c'était foutu et tout, genre, comment c'était amené ça. Voilà.
Oui, c'est vraiment marrant. C'est au début, il y a toujours un petit. Tout début à la toute fin. Il y a un petit journal intime qui met le décor, et après qui fait un peu un résumé de l'épisode. Et c'est sympa. Puis voilà, c'est marrant. Il y a Lou avec un point d'exclamation, un petit cœur. Enfin voilà. C'est mignon, mais en même temps, c'est intéressant, c'est touchant. Voilà.
Oui, ça.
Et tu préfères lire Lou enfant ou Lou maintenant? Ouais, c'est, oui, tu préfères en gros les premiers tomes ou les derniers tomes? C'était plutôt dans ce sens-là, magasin.
Je sais pas, je pense que je serais... C'est différent parce que genre, les premiers tomes, ils sont vraiment... Genre, en fait, je les ai vraiment lus en boucle quand j'étais ado et j'ai continué à les lire en boucle, en fait. Mmh. Enfin, c'est vraiment que je les avais pas lus, mais du coup, j'ai recommencé à les lire et c'est... J'ai pas vraiment de préférence, genre j'ai un avis extrêmement biaisé et nostalgique des vieux. J'aime toujours ouais. autant lire les nouveaux parce que c'est la suite de sa vie. Mmh. Donc j'ai pas vraiment de préférence, voilà, c'est toujours aussi bien.
Ok, d'accord.
Allez tout lire. Maintenant.
C'est ok, vrai. Ça marche.
Est-ce que c'est à la BDBD qui certains loups?
Ah oui, je crois qu'ils sont tous, ouais. Oui, ils sont tous.
Okay, ils sont tous. En tout cas, le dernier, c'est sûr qu'on l'a.
Ah oui.
Mais je crois qu'on les a tous, effectivement. Du coup, venez les lire, ça vous intéresse. voilà, merci beaucoup pour ces petites recommandations. Melwan, à ton tour, je te laisse la parole.
Alors, du coup, moi, je voulais parler d'Invincible. Donc, Invincible, si vous en avez pas entendu parler, c'est une bande dessinée comics, je sais pas la différence, écrit par Robert Kirkman et dessiné par Cory Walker, je crois. Jusqu'au tome 8 et puis Ryan Otley est ensuite venu à partir du tome 8 pour dessiner. Donc ça raconte l'histoire de Mark qui est le fils d'un super-héros et il l'apprend très tôt, c'est pas dans son adolescence, un jour Mark, il faut que je te parle. Bon, c'est non, il le sait depuis très longtemps et il sait qu'il va développer des pouvoirs. Donc au moment où on commence justement la bande dessinée, où il n'a pas encore de pouvoir, mais il commence à les développer. Donc c'est trame très, très classique. Omni-Man qui est un peu le Superman de ce monde. Omni-Man, donc c'est le père de Mark. Omni-Man qui est fort, qui est gentil, qui est... qui est aimant pour sa famille, et puis Marc, l'adolescent, ça c'est pas tellement un adolescent, je crois qu'il est déjà en université quand on prend la bande dessinée. Donc Marc qui est très rêveur par rapport à ses pouvoirs et qui veut aider son père, etc. Mais un beau jour, la Justice League de ce monde est décimée par une entité surpuissante qui ne laissa pas du tout de traces. Donc, s'ensuit un plot twist qui va diriger l'entièreté de la bande dessinée, que je ne vais donc pas dire tout de suite. C'est très intéressant parce que du coup, on commence avec quelque chose de très classique et jusqu'au plot twist, on est directement amené dans une autre direction où Marc, il ne va pas juste avoir envie de... comment dire, trouver ses super pouvoirs, former sa propre équipe de super-héros pour combattre des vilains et essayer d'aider son père, la Justice League de ce monde. Non, tout bascule ce jour-là et c'est très, comment dire, ça représente bien l'atmosphère générale. Mais c'est très intéressant la direction qu'ils prennent. Donc effectivement, il y a beaucoup de références et inspiration de DC Comics, mais il y a beaucoup plus de liberté, surtout un univers qui est entre guillemets vierge, où il y a rien, enfin où rien n'est établi, donc ça pourrait paraître un peu faible généralement dans ce genre d'univers qui essaye de répliquer quelque chose, mais dans ce cas-là, ça paraît aussi riche que le DC Comics univers ou même un univers Marvel quelconque. C'est très, très rempli de vie extraterrestre avec beaucoup de lore, pas mal de lore quand même. On arrive, Omni-Man s'était déjà fait des ennemis jurés, il y avait déjà des personnes qui étaient considérées comme invincibles ou surpuissantes ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on arrive au milieu de n'importe quel DC Comics en tant que le fils du héros principal du comics. Donc c'est très intéressant. Et il y a une grande qualité des personnages principaux. Un personnage principal vraiment attachant, parce que il est souvent remis en doute, mais pas seulement par rapport... Enfin, il est souvent remis en doute par rapport à ses pouvoirs, il est remis en doute par rapport à ce à quoi il croit, il est souvent remis en doute par rapport aux ses proches, donc c'est quelque chose de très très particulier. En général, Invincible, c'est une critique. Bon, y a beaucoup de critiques de la société. Du fait d'être patriote même et d'être, comment dire, un peu arraché entre sa famille et sa patrie. Donc c'est, ça peut paraître un peu bizarre, mais personnellement, je trouve que c'est un sujet quand même pas mal à voir. Et même si dans cet univers, y a un homme comme Mark ou Miman qui sont capables de rester dans l'espace, à retenir leur respiration pendant des semaines, des mois entiers, je crois qu'ils parlent même d'années, c'est quand même très... Ils sont quand même... on a l'impression que c'est vraiment des humains, quoi, vraiment des personnes plutôt. Et c'est pas juste des machins avec des pouvoirs. Mais j'ai pas tout lu. Donc je sais pas. Mais je sais que c'est pas tout ce que l'auteur a à dire. Je pense, étant donné que la série est plutôt longue, j'ai lu que les deux premières intégrales, et c'était au moins 3 heures de lecture pour chacune. Quelque chose comme ça, c'est vraiment... Bon, après, je lis assez lentement. Mais je pense que la série, étant donné qu'elle se concentre sur le même perso, donc Invincible alias Mark...
Ah, c'est lui qui s'appelle Invincible ?
Oui.
Ok, d'accord.
Mince, oui, je l'ai pas dit. Oui, effectivement. Donc, Invincible, c'est juste son nom de super-héros. C'est... Puis, le nom est un peu catchy. Donc, c'est un peu, ça représente un peu les aspirations. Genre, je suis invincible. Donc, voilà. Et on peut, en général, sur cet univers, on peut s'attendre à une parodie d'à peu près tout. Après, c'est pas vraiment comme The Boys où tu prends un perso de DC Comics et tu lui donnes d'autres traits de personnalité. Qui juste pour, je sais pas, faire une critique du personnage en lui-même. Non, c'est juste, là, ils introduisent beaucoup de personnages par eux-mêmes, genre Adam Eve, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est un des personnages principaux, en tout cas, là où j'en suis, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Adam Eve, qui a la possibilité de manupuler tous les atomes, et qui, quand elle était bébé... elle récitait pas genre pomme, elle disait C-H-C-O-O, tout ce genre de trucs.
Oh, le boss chiant.
Donc c'est ce genre de truc. On peut s'attendre du coup à une parodie sur, pas vraiment une parodie, mais plus une critique sur le héros surpuissant qui a des responsabilités énormes et est tout le temps mis à l'épreuve pour devenir plus fort. Donc c'est pas du tout comme n'importe quel DC Comics. Mais ça s'en inspire énormément. Donc voilà, je pense que c'est tout.
Ok, ça marche. Du coup, c'est un peu un héros malgré lui.
Oui, c'est un peu un héros qui, bah, genre, il aurait aimé vivre une vie normale, quoi. Il aurait aimé que, bah, tout ça ne se passe pas comme ça. Je suppose que si jamais ça devrait, enfin, comment dire. Il avait le choix à abandonner ses pouvoirs pour vivre une vie normale avec son père, sa mère et ses amis et sa famille. Je pense qu'il le prendrait, même si, bah, en fait, il est forcé de protéger la Terre.
Ouais, d'accord, ok. Et alors après, moi, je lis peu, voire pas du tout de comics, du coup, j'ai pas trop d'avis à donner, j'avoue. Mais dans les autres comics, on va dire, genre DC Comics, Marvel et tout, est-ce que les méchants, c'est vraiment juste des machins avec des pouvoirs ?
Alors,
et là, c'est différent parce que là, ils ne sont pas comme ça.
Non, en fait, c'est vrai que ça pourrait... Je suis un peu en train de dénigrer DC Comics et c'est pas du tout mon intention. Mais c'est juste que, en fait, c'est des héros contre des méchants, sauf que les méchants, tu te demandes... Enfin, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de méchants... je pourrais pas l'expliquer, mais en gros...
Les méchants sont pas vraiment méchants, tu vois.
Non, mais non, parce que les DC Comics, c'est aussi ça. Il y a quand même de la réflexion derrière les DC Comics, je dis pas, mais c'est-à-dire que dans Invincible, le méchant principal, en fait, c'est juste une erreur de jugement de sa part qui le rend comme ça, quoi. Donc c'est quelque chose... Il a été forcé d'être méchant, mais c'est pas ce qu'il veut. Donc c'est un peu beaucoup de j'ai été forcé... Toute cette situation a été forcée juste par l'ambition d'un seul peuple. Donc ça fait que bah, t'as une guerre entre qui déchire des familles, alors que bah, en réalité, c'était pas voulu et c'était même pas nécessaire, quoi. Donc voilà. Donc C'est juste que les pouvoirs, j'ai l'impression, sont un peu... sont pas là pour « je vais détruire la Terre et tu dois m'arrêter tout de suite et j'ai des raisons derrière ». Non, les pouvoirs sont pas vraiment là pour ça. Je crois pas qu'une seule fois je me suis dit... je crois pas, pour l'instant j'en suis à deux intégrales. Deux intégrales c'est quand même beaucoup, mais je me souviens pas avoir vu la trame habituelle où t'as un méchant qui est en train de d'établir un plan très méchant.
Ouais, d'accord.
très méchant pour essayer de détruire la Terre ou faire du mal à quelqu'un. Non, c'est plus progressif et le but final c'est juste d'éliminer son adversaire plus que d'avoir d'autres motivations, plus que de, je sais pas, détruire la Terre, détruire l'univers. Donc c'est
okay, je vois le...
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est truc. Voilà.
Je sais pas si Joachim, toi tu lis beaucoup de comics ou si t'as lu celui-là.
Non, j'ai eu beaucoup de retard à traiter dans les comics. Faut que je m'y mette. Mais j'ai pas lu celui-là. J'ai eu beaucoup de spoilers. Genre, je sais à peu près de quoi il parle. Je dis un truc, je vois de quoi il parle. J'ai vu aussi beaucoup de mèmes.
C'est vrai que la série est sortie. Et... En vrai, on a déjà parlé des adaptations, mais j'avais considéré à regarder la série. Sauf que je trouve que l'animation est un peu. Et pas aussi bien que le dessin l'est dans les comics. Donc je me dis, je vais peut-être rester sur les comics en fait. Il y a que les deux premières intégrales à la BD Bedeck. Je me ferai une joie d'acheter le troisième et le quatrième pour la BD Bedeck.
Il y a quatre intégrales en tout
Non, en tout. Je dis troisième, quatrième parce que je vais pas pouvoir acheter toutes les intégrales.
Ah non, mais t'es pas.
Oui, non, mais je sais. Mais,
j'ai acheté, hein. Eh bien, si vous voulez lire Invincible, vous pouvez, au moins les deux premières intégrales, vous pouvez venir à la BDBTech pour les lire. Du coup, on va terminer cette partie dernière lecture par ma dernière lecture. Je vais donc vous présenter La fille de la plage, qui est un sacré manga, du coup, que j'ai lu récemment.
Qu'est-ce qui t'a fait lire c'est La fille?
J'avais entendu beaucoup d'avis dessus, je voulais me faire mon propre avis. On va dire ça comme ça. Petit résumé pour commencer. Alors déjà, La fille de la plage, c'est un manga écrit par Inio Asano, qui est également l'auteur de Bonu Poon Poon notamment. Enfin, je sais qu'il est très connu pour ça, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il est connu pour ça, du coup je le notifie quand même. Et qui a commencé à apparaître au Japon en 2009. Donc les personnages, ça suit l'histoire de deux personnages principaux. Un jeune garçon et une jeune fille, enfin des adolescents de environ 15 ans, qui s'appellent Kome et Isobe, qui ont globalement des vies pas cool du tout, et qui essayent, on va dire, de s'aider l'un l'autre dans une relation orientée autour du sexe, hein, globalement, on va pas se mentir, ça parle de ça, et puis l'histoire elle va suivre un peu la manière dont ils évoluent au sein de cette relation et comment ils s'en sortent ou pas, et comment leurs problèmes dans la vie évoluent par rapport à ça ou au contact de ça, ce que ça veut dire pour eux et tout. Je suis très mitigée par rapport à ce manga. En fait, il faut savoir qu'il est très explicite. C'est pas, même pas censuré, genre rien. Pour moi, ce manga, déjà, il n'est pas pour tout le monde. En soi, les scènes de sexe, ça ne serait pas un problème, déjà, si on n'avait pas autant, et si elles n'étaient pas autant malsaines, entre guillemets, et si elles ne transmettaient pas autant de malaise. Parce qu'en fait, quand on les lit, c'est juste du grand malaise, et il n'y a pas grand-chose de plus, parce qu'ils ont un rapport à ces choses-là qui est assez... violent en quelque sorte. Pas violent dans le sens, c'est de la violence physique, ils se tapent dessus, c'est pas vraiment
mais
ça.
C'est pas doux, c'est pas.
C'est vraiment pas.
C'est pas un moment de
c'est
plaisir.
Pas positif.
C'est pas
en tout
un
cas.
Moment de plaisir.
C'est pas positif.
Bah, peut-être justement, s'il y a que.
Ouais, enfin.
Il y a aucun amour entre les deux personnages. Ouais.
Et... Bah, en fait, il y en a, mais c'est un peu bizarre. Et au final, il y en a pas vraiment. Et c'est un peu étrange entre ça, le personnage. Enfin, le garçon qui. Au final, entre guillemets, il a que ça dans sa vie, quoi. Enfin, pas que, mais genre.
Et du coup, ça parle que de ça.
oui, malheureusement. En vrai, ça parle d'autre chose, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je voudrais pas non plus
spoiler
l'histoire, rentrer dans toute l'intrigue. Mais en fait, par exemple, le personnage féminin. En fait, c'est une histoire plus intéressante que ça. Je tiens à dire également que les personnages sont très jeunes et ça rajoute au malaise. Ouais. Sincèrement, ça, par contre, je trouve ça vraiment pas bien du tout. Et parce que ça se voit qu'ils sont jeunes et...
C'est clairement assumé qu'ils sont jeunes.
Oui, bah, au début de l'histoire, ils ont clairement 14 ans, en fait.
Ouais.
Alors moi, je savais pas quand j'ai commencé à lire. Hein, mais au début de l'histoire, ils avaient clairement 14 ans. Et en fait, ça se voit qu'ils ont clairement 14 ans. Du coup, ouais. C'est un peu... Ouais, c'est carrément gênant, ça, par contre. Bah, en fait, la fille, au tout début de l'histoire, vit une agression sexuelle. Et en fait, au moins, je dirais que l'histoire, ça permet de se rendre compte de ce que ça peut faire, une agression sexuelle sur une personne. Parce qu'en fait, elle, après... Pendant toute l'histoire, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'en fait elle ne se perçoit que comme un objet en quelque sorte. Du coup ça peut être un truc intéressant, mais je trouve que la manière de le faire était juste
malsaine
et repoussante en fait. Il y a plein de choses qui sont honnêtement repoussantes dans ce manga.
Oui, non, clairement, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interprétations à avoir différentes sur ce manga.
Oui, sûrement.
Parce que en fait c'est pas il y a le personnage féminin, mais il y a aussi un personnage masculin principal.
Oui.
Quelques personnages secondaires, mais bref, c'est juste un peu comment dire. Ils essayent d'avancer, mais ils savent pas comment faire. Et il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Donc, étant donné que c'est quelque chose de purement japonais, ça parle forcément aussi des pensées suicidaires. Ça parle de culpabilité. Ça parle de comment, en fait, c'est. Je crois que juste en fait le sexe par rapport dans ce manga, c'est juste parce que comment dire.
C'est une manière de montrer aussi qu'ils ont clairement grandi trop vite.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui leur sont passées très jeunes.
Oui.
Ça aurait jamais dû arriver. Du coup, ils sont complètement. Ils savent pas quoi faire, quoi.
À cause des smartphones.
Non. Mais même pas, parce que je sais même pas quand il se passe le manga, c'est des vieux téléphones qu'ils ont.
sur les forums et tout, là.
Oui, exactement. Mais sur les vieux blogs et tout, mais. Mais ouais. En fait, pour moi, ce manga, il a plein de choses intéressantes à raconter.
Ouais.
Mais il faut quand même avoir, entre guillemets, le cœur bien accroché pour aller jusqu'au bout et pour toutes les voies.
Oui, voilà, c'est ça. Ça parle de beaucoup de sujets très malsains. En général, je crois pas qu'il y ait une seule scène où je me suis dit c'est calme, c'est je me sens bien là en regardant. Non,
c'est mignon ça.
Même en dehors juste des scènes de sexe, il y a beaucoup de scènes qui sont très 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 malsaines.
Je suis d'accord.
Après je sais pas si tu l'as mentionné, mais l'auteur c'est Inyo Asano.
Oui, voilà.
Donc qui a fait Oyasumi Punpun, qui je pense est au moins aussi malsain, sans pour autant, enfin au début ça n'inclut pas du tout de scènes de sexe dans Punpun. Dans la suite, je n'en sais rien et ça m'étonnerait pas.
Ouais.
Mais
je crois qu'il y en a.
Ouais. Mais juste dans le début de Punpun, je trouve ça aussi malsain que La fille de la plage. Et en général, j'ai l'impression que c'est les œuvres de cet homme sont plutôt un peu. Dérangeante,
ouais, mais...
T'es dérangée du coup, mais ça... C'est
oui, non, mais c'est un peu... Ouais, c'est un peu tordu, ça parle de sujets où tu dis « Ah ouais !»
En fait, moi, je me demande, en lisant ça, où se situe la limite entre la volonté de choquer le lecteur, parce que c'est des choses choquantes qui sont racontées, et juste le fait, genre, d'en faire trop, et c'est pas la peine, en fait, d'aller aussi loin, et...
Ouais.
Choqué pour choquer, tu vois. Enfin, je veux dire, moi je me dis, est-ce que l'histoire elle aurait pas pu être racontée? La même histoire aurait pu être racontée peut-être, mais étant peut-être un peu plus accessible, avec des trucs moins dégueux.
Ouais.
Et des trucs moins. Parce que clairement, c'est pas pour tout le monde, hein, je le répète.
Vraiment.
Tout le monde ne doit pas lire ça.
Mais du coup, qu'est-ce qui te l'a fait recommander sur cette émission aujourd'hui?
Bah, en fait, c'est ma dernière lecture, littéralement. Donc, en fait, en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire et j'ai eu le temps de lire ça quand même. Je me suis dit, on va en parler. Et en plus, j'en ai beaucoup entendu parler parce que ça fait un peu un micro-scandale au sein de l'association, ce livre. Et je me suis dit, allez, je vais le lire pour savoir. Et j'ai lu et maintenant, je sais, un micro-scandale, ouais. Voilà, je sais pas si vous avez un autre avis à donner sur La fille de la plage ou pas.
Alors, du coup, ouais. Alors,
vas-y.
Bah, alors, je pense que, clairement, on l'a déjà dit, c'est fait exprès pour que ce soit dérangeant. Est-ce qu'on aurait pu raconter la même histoire sans que ce soit aussi dérangeant? Mais est-ce que ça aurait été la même histoire? Est-ce que l'auteur voulait pas faire ça? Alors, de toute façon, on pourra en reparler plus tard parce que le thème, ça va être les émotions. Et donc, là, ça a effectivement produit beaucoup d'émotions de malaise et de dégoût. Mmh. Voilà, donc peut-être qu'on en reparlera. Mais voilà, il est paru dans un magazine érotique. Est-ce que quelque chose d'aussi malaisant dans un magazine érotique, c'est pas justement à l'encontre du principe du magazine érotique, on l'a juste pour...
Ouais.
Voilà, genre, on sait pas que c'est un magazine érotique. Est-ce que là, du coup, quelque chose de si malaisant, c'est pas... Voilà. Enfin, bon, on pourrait y revenir, mais voilà, je pense que...
Après, la possibilité... Déjà, il y a une différence de culture. Inio Asano, japonais, toutes ses œuvres, ça se passe qu'au Japon. Ça parle souvent de l'enfance au Japon et toute l'adolescence aussi au Japon. Donc, forcément, c'est un peu plus étrange pour nous représenter. Il y a une différence culturelle, puis il y a peut-être aussi une différence en termes de mentalité. Donc, peut-être que c'est pas nécessaire et qu'il fait pas forcément ça pour choquer, mais c'est juste pour lui naturel de faire ça dans son histoire. Je dis pas que ce qu'il fait, c'est... Enfin, comment dire, ça peut venir naturellement. Ça peut pas trop venir naturellement. Mais je me dis qu'il a pas... Son but, c'était pas forcément de choquer, mais plus de raconter une histoire avec des trames à côté qui pourraient être vues en Occident comme quelque chose de...
Je crois qu'il a fait aussi Solanine, l'auteur, qui est aussi, genre... Là, c'est vraiment la volonté de choquer, je pense, genre, c'est... Au début, c'est vraiment très, 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 très nice. Genre, c'est... Waouh, c'est... Incroyable. Asano a décidé de faire un truc chill, mais en fait, non. Voilà. petit disclaimer, c'est tout aussi...
Après, enfin, je sais que... Enfin, comment dire... Je pense que les problématiques qui sont abordées dans La fille de la plage, elles sont pas propres qu'au Japon du tout. Et je pense sincèrement que... Ça peut être repris partout, genre par exemple des trucs autour du suicide, des agressions sexuelles, ce genre de choses.
Oui, c'est clair.
Ça, il y en a clairement partout pour le coup.
Ouais.
Donc voilà. Et puis en fait, tu vois, moi je me dis, Inio Asano, c'est quand même, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein. C'est un artiste et tout. Si on s'est senti dégoûté, pour moi, c'est qu'il voulait qu'on soit dégoûté.
Voilà, bah, c'est clairement ce que je voulais dire.
Ah merde!
Non, c'est pas grave.
J'ai spoilé ton propos. Mais. voilà, moi je pense que. C'était fait exprès. Et par contre, oui, je suis d'accord, je ne comprends pas la présence de ce truc dans un magazine érotique. C'est trop malsain pour être là. En fait, d'un autre côté, je pense que ça a été publié dans un magazine érotique parce que ça n'aurait pas trop pu être publié ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, c'était mon avis. Je ne sais pas du coup si tu voulais rajouter quelque chose.
Non, je pense qu'on peut passer au thème.
On peut passer à la suite. Et ben, avant de passer à la suite, on va faire... Une petite pause, on se retrouve donc dans quelques instants. Reparti. Du coup, cette fois, on va aborder le thème de cette émission, les émotions et surtout comment nos lectures nous les font ressentir. Comme c'est toi, Joachim, qui est venu avec cette idée de sujet, je te laisse commencer.
Alors, du coup, j'allais prendre une petite introduction. J'ai l'humain a toujours cherché un sens à la vie. C'est vrai. Et moi, j'ai pas trouvé. Non. Du coup, j'ai cherché un sens à pourquoi je lis. Pourquoi je lis, je regarde des films, des animés et tout. J'ai pas trouvé non plus. Voilà, je cherche toujours. Je suis un peu perdu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé plein de raisons, en vrai. Même si j'ai pas trouvé toutes les raisons. Et on peut lire pour le scénario, pour les dessins, pour beaucoup de choses. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il y a un truc pour lequel je le lis particulièrement, c'est pour ressentir des émotions. Et pour sortir des émotions fortes ou pas si fortes. Et que j'aurais peut-être pas ressenti dans ma vie, en fait. Et voilà, c'est une des raisons principales pour lesquelles je lis. Et, ces émotions, on les ressent toujours en gardant l'intermédiaire du support dans lequel on lit. Donc, par exemple, quand on lit un manga et qu'on est triste, parce que le manga est triste, on n'est pas aussi triste que si on avait vraiment vécu la situation. Et ça ne nous affecte pas autant que si on avait vraiment... Voilà, vous gardez toujours la barrière du support sur lequel vous lisez, de la BD, de l'animé, voilà. Du coup, en général, c'est un fait plutôt établi, l'art, il vise à faire éprouver des émotions, sauf voilà, des cas particuliers, mais généralement, l'art, ça vise à susciter quelque chose chez la personne, chez le public, chez la personne qui lit. Et généralement, quelque chose qui laisse indifférent, c'est bof. Genre, par exemple, s'il y a une musique, vous dites bof. Genre, est-ce que ça se trouve, c'était juste une musique pour combler ? Ça se trouve, c'était son but. Mais souvent, c'est... Voilà.
C'est vrai qu'une musique bof, c'est pas ouf. Hein. En général.
Waouh, c'est vrai qu'on part sur des gros constats, là. Genre,
ouais, là, on dit des trucs très vrais, là.
Attention. J'ai un Master 2 en introduction. Vous êtes pas prêts. Alors, bon, déjà, du coup, j'ai préparé une petite définition des émotions. Alors, l'étymologie de émouvoir, ça vient de movere dans le latin, et c'est-à-dire mettre en mouvement. Donc, je suis parti du principe que des émotions, ça nous fait bouger de l'intérieur. Quand vous êtes choqué dans un manga, vous sentez quelque chose d'intérieur qui bouge en vous. Quand vous êtes très heureux aussi, pareil. Alors, pour simplifier, généralement, on dit qu'il y a la joie, la peur, la tristesse et la colère. Pour les besoins... vice-versa, du scénario vice-versa, il a mis le dégoût dedans, on peut mettre le dégoût dedans, il y a beaucoup de définitions des émotions, parfois il y en a 7, parfois il y en a 12, moi je suis parti sur ces 4-là principalement, parce que c'est celles qui sont plus souvent admises et établies. Alors du coup, en BD, déjà, avant d'émouvoir le lecteur, ça peut être bien de savoir comment communiquer l'émotion d'un personnage ou l'émotion d'une scène au lecteur, c'est-à-dire lui faire comprendre que le personnage est triste, lui faire comprendre que le personnage est content, qu'il est en colère et tout. Et il y a plein de manières de le faire, il y a plein de manières de le rater, de ne pas réussir à le faire. Donc voilà, et on va commencer là-dessus. Donc en BD, on a deux outils qui sont le dessin et les mots. Donc les mots dans les bulles, dans les cadres de texte, etc. Ils sont utilisables en même temps et superposément ou l'un après l'autre. Et donc voilà, il y a plein d'exemples de BD qui utilisent différents moyens. Donc là, j'ai listé quelques exemples comme Le Château des Étoiles de Alex Alice, qui est une BD très, 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 très beau d'ailleurs. Mais donc il y a plusieurs scènes par contre dedans, où il y a juste en fond les dessins de ce qui se passe. Et il y a le journal du personnage principal, Séraphin, qui écrit des choses et qui dit ce qu'il ressent. Et ça marche plutôt bien parce que souvent c'est des scènes assez contemplatives. Donc on voit plusieurs scènes qui se passent derrière, et lui il écrit son journal tranquillement et on ressent plutôt bien souvent les émotions du personnage quand il écrit, parce que justement elles sont assez bien écrites, elles sont assez bien décrites, et en même temps il y a ce fond qui illustre un peu. Il y a plein d'autres, d'autres styles. Il y a la BD d'humour franco-belge par exemple, pour représenter les émotions. Il y a beaucoup de techniques là-dedans, c'est le visage tout rouge par exemple, genre il y a beaucoup de déformations de visage. Et surtout dans la BD franco-belge, il y a beaucoup de déformations des bulles. Ils utilisent beaucoup les bulles et les déformer. Genre par exemple, quand un personnage est très en colère avec beaucoup de haine, enfin de haine, voilà, des BD d'humour souvent, la bulle est déformée, elle est presque liquide, elle tombe. Et donc c'est un procédé qui est souvent utilisé dans ce genre de BD. Il y a beaucoup de déformations en tout cas du texte qui est dit, et qui permet de comprendre très vite que la personne qui dit ça et dit ça de manière avec des émotions, voilà. Sinon, qu'est-ce que je dis, j'ai le manga shonen. Alors le manga shonen, c'est très intéressant. Ce manga shonen, il y a vraiment énormément de procédés pour les émotions. Au Japon, ils ont des codes, ils ont plein de codes différents. Ils ont vous voyez les petites gouttes à côté de la tête, les petits traits qui vont au-dessus de la tête. Enfin, il y a beaucoup de codes. Il y a les yeux tout blancs quand ils sont très en colère, les petites gouttes quand ils sont gênés, parfois ils sont très contents, du coup ils ont juste un petit chibi qui danse dans un fond psychédélique. Le même de Gojo qui qui danse avec des petites étoiles dans les yeux, enfin, non pas dans les yeux mais du coup
fleurs et tout, là, ouais,
ou Puck aussi dans Berserk où tu le vois généralement en chibi en train de faire tout et n'importe quoi.
Il y a des chibis dans Berserk.
Il y en a un et c'est Puck. C'est genre la touche d'humour de Berserk.
Bah voilà, même dans Berserk vous avez des émotions qui sont empruntées avec le symbolisme du manga japonais. Voilà, le manga japonais est assez développé dans profondeur des émotions. Il y a aussi des styles plus réalistes, donc j'ai pris comme exemple SNK, l'Attaque des Titans. Mm-hmm. Dans l'Attaque des Titans, il y a peu de chibi.
Ouais.
Il y a vraiment très peu de chibi.
Genre, pas du tout.
Alors que Berserk en a.
Est-ce que preuve que SNK est meilleur que Berserk?
Alors du coup, est-ce que c'est une preuve? Bon, je sais pas. En tout cas, il a vraiment. Genre, par exemple, l'Attaque des Titans a vraiment une patte assez réaliste. Enfin, dans le manga, il n'est pas ultra réaliste non plus, mais genre, il a vraiment une patte qui veut pas être stylisée.
Ouais.
Mais par contre, genre, les émotions sont quand même assez exagérées, malgré tout, parce que personne. Quand il crie, les traits aussi déformés que quand il dit chargé, voilà, personne n'est comme ça. Mais il profite du fait que les traits sont pas stylisés pour pouvoir les exacerber et faire ressentir des émotions. Enfin, pas faire ressentir des émotions, mais montrer les émotions assez clairement du
personnage. Oui, les traits sont très lourds dans SNK, mais c'est pas que Erwin, ça pourrait être.
Là j'ai pris Erwin.
Mais j'ai beaucoup d'exemples avec Eren. Il y a des exemples avec Gabi, il y a des exemples avec Falco aussi, des exemples avec Reiner. Reiner, il y a beaucoup de moments où tu te dis ah ouais.
Comment il s'appelle ce personnage déjà? Il y a ce même où il y a le quand elle regarde au-dessus.
Ah Armin, oui. Là. Ah oui, mais
Yelena. Avec Blanche, qui est assez connue de Yelena, qui regarde Armin avec complètement monstrueuse.
Oui, c'est vrai que les traits sont très lourds, donc il y a très peu d'émotions légères, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que comme c'est assez réaliste, je trouve que ça rajoute à la gravité de ce qui se passe, du coup.
Ouais.
Enfin, c'est très.
Il y a pas de.
C'est très concret.
T'auras pas, je sais pas, Sacha ou Hermine Chibi derrière en train de faire des.
Pas vraiment.
Alors
qu'il
y a. Bon, il y a un petit événement, quoi. Un petit truc qui se passe à côté, quoi.
Et du coup, on parle là de SNK, donc c'est l'Attaque des Titans, écrit par Isayama, qui commence à sortir il y a plusieurs années maintenant. Je redis le titre en entier. Vous pouvez retrouver la BD Bedeck d'ailleurs, si vous avez envie.
Oui, c'est vrai que.
Les Berserk aussi, d'ailleurs. Vous pouvez retrouver la BD Bedeck.
On trouve effectivement des mangas et la BD Bedeck.
Oui, c'est vrai.
Du coup, vas-y.
Enfin, je note qu'il y a quand même une version chibi de la guitare. Voilà.
C'est
marrant de noter.
Ça existe, mais vas-y.
Ça existe. Est-ce que c'est bien, Patin? Voilà. Aussi, ce que j'ai noté, c'est en général, j'ai dit, ouais, on peut utiliser les mots, on peut utiliser les dessins pour transmettre l'émotion du personnage. Généralement, il y a une règle qui est plutôt admise en écriture, c'est mieux vaut éviter de faire des redondances, de faire les deux. On dit souvent show, don't tell, genre montrer et ne dis pas.
Mm-hmm.
Mais genre, c'est pas tout en vrai. Parfois, c'est aussi montrer show, don't tell quand tu peux. C'est-à-dire, quand tu peux pas, tu peux le dire aussi, c'est pas très grave. Mais du coup, il y en a parfois qui font des redondances. Et c'est un défaut, c'est quelque chose que je note dans My Hero Academia. My Hero Academia, je trouve qu'il dessine très bien. Je trouve que c'est très bien dessiné. Il est très fort pour dessiner les émotions. Il a tous les codes. Mais le problème, c'est que à chaque fois, le personnage parle en même temps pour décrire ce qu'il pense. Et du coup, moi, c'est un truc que je trouve qui est dommage, qui nuit un peu à la lecture du manga.
Oui, c'est clair.
Par exemple, quand Deku est très déterminé face à son adversaire. Deku, c'est le protagoniste. Voilà. Le protagoniste est très déterminé. On sent qu'il veut le combattre. Et là, il dit. Je suis très déterminé à le faire pour montrer à mon maître que je peux le faire. Voilà. Et du coup, il redit souvent et donc c'est dommage de pas profiter justement de ce que peut transmettre son machin et de mettre second plan par rapport à juste il dit pratiquement les choses, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de j'ai beaucoup de scènes sérieuses en tête où justement rien n'est dit mais tu en ressens absolument toutes les émotions. Donc par exemple dans Full Metal Alchemist, quand il y a quelqu'un qui se fait cramer beaucoup de fois et quelqu'un qui est très énervé en train de cramer justement le je crois je sais plus comment je crois c'est le caporal Je sais plus.
Le colonel Mustang.
Ouais, ouais. Enfin, celui qui a l'alchimie.
Ouais, Roy Mustang.
Ouais, ouais, voilà. Mustang qui s'acharne un peu sur un personnage et il dit rien, je crois, l'entièreté de la scène. Il ne dit rien, mais il s'acharne, il est énervé. Et c'est vrai que ça m'aurait un peu énervé si, après, à la fin, il s'est... Je suis très énervé.
Je suis très énervé. Je fais ça pour venger mon ami. C'est bon. Tu es suffisamment bien dessiné, bien écrit pour qu'on le comprenne sans que tu le dises.
Oui.
Enfin, voilà.
Vas-y. Je te laisse continuer.
Merci. Alors, du coup, je vais continuer. L'étape 2, c'est faire ressentir l'émotion au lecteur. C'est une fois que je raconte n'importe quoi, je vous dis pas un tutoriel, mais voilà, j'ai séparé mes parties comme ça. Donc étape 2, faire ressentir l'émotion au lecteur, pas juste lui montrer que le monsieur il est fâché, le faire en sorte que lui aussi soit fâché. Voilà. Vous, alors par exemple, je vous pose la question, je vous fais intervenir.
Ouais.
Vous, c'est quoi les mangas qui vont provoquer, vous, manga ou BD, les œuvres qui vous ont fait ressentir le plus d'émotion récemment, ça peut être positif, négatif.
Vas-y, Mélouane, tu commences ou...
Non, vas-y, il faut que je réfléchisse parce que c'est très dense.
Moi, j'en ai quelques-uns que j'ai mis de côté par rapport à ça récemment. Alors, il y a Nana, qui est un manga dont j'ai déjà un petit peu parlé, de Ai Azawa, qui m'a fait ressentir beaucoup de colère. Beaucoup de... Bah, en fait, de la joie aussi, parce qu'il y a des moments sympas qui se passent, et mignon, c'est cool et tout. Et aussi beaucoup de tristesse, parce que c'est une histoire plutôt triste, quand même. Et... Ouais, assez touchante, parce qu'en fait, l'histoire de Nana, c'est deux jeunes filles de 20 ans qui se rencontrent totalement par hasard, qui ont le même prénom, et qui vont en fait devenir très amies, très proches, et toutes les deux, l'une et l'autre, genre, entre guillemets, les meilleures amies qu'elles ont jamais eues. Et à côté de ça, elles vont essayer de s'en sortir avec leurs histoires personnelles et quotidiennes, etc., autour, par exemple, du fait de trouver du travail, de prendre son indépendance, de gérer ses relations affectives avec les autres. Et c'est un manga, du coup, qui va parler de beaucoup de choses très... que tout le monde vit, en fait, et que moi aussi, je vis, et que n'importe qui vit. Et du coup, voir des personnages de carrément mon âge, en plus, interagir, qui n'ont pas la même vie que moi, interagir autour de ça, c'est bien. Et en plus, ce manga, il est vraiment très, très bien écrit, ce qui fait que... Enfin, je trouve que ça... cristallise un peu parfaitement les émotions que c'est censé transmettre et certains cas de figure et tout, et ce qui fait que c'est un peu décuplé pour moi, par exemple. Enfin, je suis pas la seule, c'est pas pour rien que c'est un manga très aimé par beaucoup de gens.
Moi, pense que ça doit être, bon, après c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais ça va, je pense, rester dans ma tête pendant très longtemps. C'est To Your Eternity ou To You Eternal One. Je crois qu'il n'y a pas un seul traducteur qui est d'accord sur... je crois pas que les traducteurs sont d'accord sur le titre du manga, mais bref. Je crois que j'en ai parlé en lecture récente. Si je l'ai pas fait, je le ferai la prochaine fois. Mais c'est l'histoire d'un être immortel. Et en fait, on le voit un peu passer d'une pierre à un loup. D'un loup à, comment dire, une vraie personne, et d'une vraie personne. Et c'est à partir de là où ça commence à être quelque chose de plus intéressant, parce que déjà, il est immortel, donc ça veut dire que il va sûrement se faire des amis et qu'il va sûrement survivre ses amis, quoi. Donc il y a ça, puis il y a juste le fait, étant donné qu'il était un loup il y a genre 2 mois,
il était vraiment un loup,
mais c'est à dire que en gros à la base c'était une boule, et en fait cette boule, tout ce qu'elle touche, ça devient qu'elle touche. Donc au début c'était une pierre, ensuite de la mousse, ensuite de la neige, ensuite un loup, ensuite c'est devenu il a commencé à devenir une vraie personne, donc à apprendre beaucoup d'émotions. Donc en fait tu vois une personne naître, entre guillemets, on voit une personne se développer, développer des sentiments, développer des émotions, des opinions, des opinions politiques, développer ses propres opinions, sa propre manière de penser, alors que c'était une pierre à la base. Et on le voit comment il développe ses émotions, grâce à des vraies personnes qui, elles aussi, ont des émotions et qui essayent de lui transmettre, justement, en étant son ami. Et en fait, ce qui est très, vraiment incroyable, c'est le fait que la partie où il est un loup, donc c'est-à-dire qu'il il est sur, il découvre le fait d'être vivant, le fait de ressentir le froid, la chaleur, la faim, le tout ça. Bah en fait, du coup, il est pas vraiment une vraie personne. Mais c'est à ce moment-là où je pense que j'ai le plus pleuré de peut-être pas de toute la série, mais c'est l'un des moments les plus mémorables de toute la série, ou enfin toute la série de manga, où en gros. Bon, en fait, c'est pas vraiment l'histoire, seulement l'histoire de lui en tant que loup qui essaye de découvrir qu'est-ce que c'est de juste d'être un être vivant, quoi. Il est accompagné d'un garçon qui est reclus dans un froid pas possible, c'est-à-dire qu'il est sur une énorme banquise tout seul après que il est été abandonné. Donc et en plus ce garçon a genre je sais pas entre 12 et 14 ans, un truc comme ça, il est vraiment c'est un jeune garçon quoi. Et en fait on voit le garçon faire de son mieux pour rester positif alors que il est dans la merde, il est au milieu de nulle part avec des grosses difficultés à se nourrir, à trouver enfin juste trouver à manger, à trouver de la chaleur, à trouver de l'espoir. Donc c'est vraiment quelque chose où en fait on sait pas ce qui se passe dans la tête de ce gosse, rien n'est dit vraiment explicitement parce qu'en plus de ça c'est un loup, donc il, même si pour que ce soit un peu pour que ce soit un peu facile à nous de comprendre, et évidemment, le garçon parle au loup comme si c'était son vrai ami, comme si c'était un pote, comme si je te parlerais à toi. Mais le truc, c'est que il va quand même. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas dites, mais qui est montrée, et ça tourne juste au désespoir et à la tristesse. Et alors que comment dire, c'est pas vraiment quelque chose. Je ressens pas de la tristesse parce que le personnage principal, je ressens de la tristesse, parce que j'ai de la peine pour le personnage qui est présenté.
Ouais.
Donc voilà.
Et c'est très intéressant parce que j'avais tout prévu. c'est des choses qui font ressortir des émotions. On peut être touché par des œuvres, voilà. Et donc vous avez décrit des situations. Souvent, c'était des situations où qui vous faisaient vivre des émotions. Et donc effectivement, les situations, c'est un moyen assez facile de faire des émotions. Pour les différentes émotions, par exemple, une situation injuste, ça provoque facilement de la colère. Voilà, pour un personnage qui meurt, ça peut facilement faire de la tristesse. Un danger, une bonne nouvelle, voilà, de la peur, de la joie, une situation malaisante, du malaise. Voilà, beaucoup d'une situation peut faire naître beaucoup d'émotions facilement. Mais on peut aller facilement, entre guillemets, plus loin que juste avoir une situation qui donne une émotion. Il y a plusieurs manières d'accentuer ça. Par exemple, j'ai plusieurs exemples. Pour accentuer la joie, s'il y a juste une situation joyeuse, c'est pas très intéressant. Par contre, si on a un obstacle avant et qu'on sort d'un obstacle et qui a été très difficile à abattre et qu'on ne savait pas si on allait réussir, on est d'autant plus joyeux que ça se finisse bien et qu'on a... que les protagonistes ont réussi à surmonter cet obstacle. Et donc, souvent, c'est cet ascenseur émotionnel en fait, qui est utilisé pour mettre en exergue les émotions avec deux émotions opposées, souvent la joie et la tristesse, ou la peur et la joie, ou d'autres émotions qui sont mises à côté pour qu'elles soient... Pour qu'elles amplifient. On appelle ça un ascenseur émotionnel, vous avez déjà entendu le mot. Voilà, on est très triste, et puis d'un coup, juste après, en fait, tout va bien.
Oui.
Par exemple, j'ai cité plusieurs gens, comme dans Jojo, il y a énormément de passages.
Oui.
Jojo's Bizarre Adventure. Il y a énormément de passages où on se dit, mais c'est impossible qu'ils gagnent, impossible qu'ils vont tous mourir.
Oui.
On est trop triste. Et juste après, de nulle part, il y a un truc qui apparaît et qui fait que, boum, en fait, non, il y a un espoir et ils vont peut-être gagner. Et juste après, les méchants vont reprendre le dessus. Et oui.
Après, je tiens à dire, c'est pas très cliché en mode « Ah, mais j'utilisais seulement 10% de mes capacités.
» Non, je cite Jojo parce que c'est plutôt bien fait.
Ouais,
c'est en passant en plus dans le genre où on pense connaître souvent tout les limites du truc, on se dit non, c'est pas possible. Ouais. Tous nos protagonistes préférés vont mourir. Mais en fait, non, il y a un truc qu'on n'avait pas pensé.
Oui, voilà.
On n'a jamais vraiment les limites de tout ce qui peut se passer sur le jeu au final.
Voilà. Et du coup, j'ai noté ça. Il y a beaucoup d'exemples. J'ai noté un exemple qui est un livre pour la colère. Par exemple, la part de la colère, c'est une émotion qui est assez difficile à faire ressentir. Je trouve dans les fictions qu'on lit souvent. Et donc j'ai noté Le Seigneur des Porcherets, qui est un roman, qui n'est pas une BD, mais on a des romans aussi à la BD Bédèque, donc je suis dans le thème. Et donc Le Seigneur des Porcherets, c'est l'histoire d'un petit garçon un peu renfermé dans sa bulle et qui grandit aux États-Unis dans un village paumé avec des gens extrêmement intolérants et méchants, et c'est absolument horrible ce qui lui arrive. Il veut juste élever ses moutons dans sa ferme. Et il est vraiment malmené par le village. J'ai jamais ressenti autant de colère et de haine que dans ce livre-là. Parce que c'est vraiment très méchant ce qui se passe. C'est très, très injuste, en fait. Genre, tout le village est contre lui, alors qu'il n'a rien demandé. Et face à une telle injustice, voilà. On est très, très facilement en colère. Ouais. Aussi quelque chose qui permet facilement de restreindre la barrière entre le lecteur et l'œuvre, c'est le dessin. Et souvent, c'est un dessin simple. J'emprunte cette idée à Scott McCloud, qui a écrit L'Art Invisible. Et il a dit, et je pense que c'est assez vrai, qu'on peut mieux s'identifier à des personnages et qu'on peut mieux ressentir les émotions des personnages quand... les personnages sont dessinés avec des traits plus simples. Et je pense que ça, c'est vrai. Par exemple, Vagabond.
Oui.
Je ne sais pas si vous connaissez le manga Vagabond.
Oui.
Vagabond,
oui.
C'est extrêmement bien dessiné. Genre, vraiment, il y a des détails partout. C'est très réaliste. Et même quand ce n'est pas très réaliste, quand c'est plus psychédélique, c'est quand même très, très bien fait.
Ouais.
Et pourtant, j'ai en train de lire, c'est très, très bien. Donc l'histoire est très, très bien. Tout est très, très bien. Mais pourtant, j'ai du mal à m'investir émotionnellement dedans. Parce que, par exemple, il y a des moments où il y a des personnages très qui sont bien développés, assez attachants, et on ne veut pas qu'ils meurent, mais ils vont se faire tuer quand même. Parce que c'est le Japon, des samouraïs, et il va se faire tuer parce que c'est un duel d'honneur, et il y en a forcément un des deux qui va mourir, et il y en a qui oui. meurent. Mais je n'ai pas ressenti énormément de tristesse, d'émotion. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez lu Vagabond.
J'ai lu 2-3 tomes, mais après, étant donné que tout le monde... empruntait les tomes à la BD Bédèque.
Il faut s'y prendre à l'avance. Moi, je les ai lus presque tous, mais il y a 2-3 ans maintenant.
Ok.
Et moi, c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup accroché, j'avoue que c'était les dessins, l'histoire et le côté un peu philo, on va dire, ouais, du truc. Enfin, les réflexions que ça apporte et tout ça, que j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que le personnage principal. Enfin, comment dire ? Des fois, il y a des sentiments qui viennent, des sentiments d'injustice par rapport à ce qui se passe, ou un petit peu « Ah, c'est pas ouf ce qui se passe, c'est pas bien, etc. » Mais c'est vrai que c'est pas non plus... je sais pas trop. Si, pour un personnage quand même, il y a un personnage qui est... je sais plus du tout les noms de personnages, c'est plusieurs années maintenant, mais je crois que c'est un mec qui est sourd et muet. Lui, par contre, j'ai eu beaucoup d'affection pour ce personnage-là et je me suis beaucoup attachée à lui.
Mais après, en fait, sur le truc des dessins simples, je me dis ça peut pas se reposer uniquement sur le dessin, parce que techniquement, imaginons que je regarde une série comme Breaking Bad, tout est réaliste, les personnages sont c'est juste une caméra sur des vraies personnes, il y a pas de dessin, donc. Ouais. Techniquement, c'est réaliste, mais pourtant, je suis quand même investi émotionnellement avec la plupart des personnages.
Effectivement, ça marche généralement pas, mais le problème, c'est que quand c'est quelque chose, une œuvre de dessin, quand c'est des vraies personnes,
ouais.
Et que c'est bien joué, on a l'impression que c'est des vraies personnes, du coup, on est assez facilement investi émotionnellement. Ouais. Par contre, quand c'est du dessin...
C'est des humains, quoi. Genre, c'est d'humain à humain, c'est
oui.
plus facilement, je
trouve. Ouais. Ouais, c'est ça. Et quand c'est des dessins, soit on a quelque chose de très réaliste et qui est pas forcément proche de nous. Genre, par exemple, tu te dis pas que tu es Walter White dans Breaking Bad. Genre, voilà, tu peux t'attacher à lui, à cette personne-là, mais voilà, tu te dis pas...
Oui.
Winnie Tuku, Jesse. Ben voilà, t'es pas Walter White. Et dans la bande dessinée, en tout cas, et donc, par exemple, Kojiro c'est assez... illustre exactement ça, parce que Kojiro, dans Vagabond, a des traits très simples. Il a des traits très doux, très enfantin. Oui. Et genre, il est très peu détaillé, alors que par exemple, le personnage principal, Miyamoto Musashi, on voit ses traits très détaillés. Genre, c'est, c'est quasiment photoréaliste. Il y a, y a des ombres partout sur son visage.
Ouais, tous ses cheveux, ses cicatrices, ses, sa barbe, toutes les saletés sur son corps, n'importe quoi. On voit vraiment tout pour le coup, c'est vrai.
Voilà, et du coup, on se met pas facilement dans la peau. Genre, on se met à l'extérieur de cette personne, on voit cette personne d'un point de vue extérieur, alors que, d'après en tout cas Scott McCloud qui a théorisé ça, enfin, il n'est pas le premier à théoriser ça, mais c'est ce que j'ai vu quand il a théorisé ça, c'est que plus le dessin est simple, plus on peut facilement se mettre à la place et voilà.
Ok, d'accord. Bah, écoutez, on va bientôt finir cette émission. On peut peut-être aborder un dernier petit exemple, si s'il y en a un que tu voulais aborder, Joachim, avant la fin.
Un dernier exemple avant la fin.
Celui qui te tient le plus à cœur.
Allez.
Allez.
C'est le dernier.
Je vais parler de des émotions qui font passer un message. Je parlais de l'attaque des titans. On a déjà un peu parlé de l'attaque des titans tout à l'heure, mais l'attaque des titans, c'est la première fois où je me suis dit waouh, je ressens beaucoup de choses quand je regarde un animé. Quand j'ai regardé l'animé, mais le manga, ça marche aussi, hein, parce que j'ai lu le manga après. Et qu'est-ce qui nous dit le manga ? Il nous fait comprendre la guerre, c'est mal. Alors, c'est pas très subtil comme message, mais enfin, c'est un des messages qui passe, donc c'est pas le seul, mais comment il le fait passer ? Il le fait passer, il utilise en fait à peu près tout ce qu'on a dit jusqu'ici, il fait des situations très désespérées, on ressent facilement la détresse des personnages, et on s'attache très vite aux personnages, et il les fait mourir. Et c'est absolument ça qu'il veut faire, en fait, c'est nous montrer à quel point la guerre, c'est, enfin, je pense en tout cas donc, que la guerre, c'est... ça fait mal, en fait, parce que c'est des gens qu'on aime bien qui meurent.
Oui.
Et on a ça à chaque fois, en fait. Et il utilise aussi, enfin, tous les prophétisants, on l'a dit, il a des traits assez réalistes, assez lourds.
Oui.
Et pourtant, les trois personnages principaux, qui sont Eren, Mikasa et Armin, ils ont des traits simples. Même quand ils sont adultes, ils ont des traits plutôt légers. Et c'est les seuls qui ont des traits plutôt légers, et on peut facilement s'identifier à eux.
Oui, c'est clair.
Personnellement, moi, je me trouvais assez proche d'Armin. Genre, quand il réfléchissait, j'ai dit, oui, Armin a raison. D'autres qui vous disent oui, ils se rendent très proches d'Eren parce que ils trouvent que sa quête de vengeance est justifiée, voilà. Mais donc je trouve qu'on s'en facilement investi dans les personnages. Et il y a un truc qui est très intéressant à voir, c'est que les gens, vous voyez le personnage de Gabi, je ne vais pas tout spoiler.
Ouais.
Et donc le personnage de Gabi est très détesté.
Oui.
Et le personnage de Eren n'est pas extrêmement détesté. Alors que c'est le même personnage. Et alors
c'est
que.
C'est des fonds différents, mais oui, au fond, c'est la même.
C'est le même type d'écriture de personnage.
Oui.
Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que Eren, il fait des choses pires. Il fait bien pire.
Oui.
Et pourquoi les gens détestent beaucoup plus Gabi ? C'est parce que il a tué un personnage que tout le monde aimait bien.
Mm-hmm.
Donc ça montre, c'est juste pour conclure mon propos, on va dire que ça montre que pour faire passer un message, les émotions, tuer un personnage important, ça déclenche beaucoup d'émotions et ça nous biaise, ça nous fait transmettre un message très fort, plus que juste des statistiques ou des documentaires.
Mmh.
Et voilà, ça permet de dire que les émotions, c'est très puissant.
Oh là
comme
là.
Le pouvoir de l'amitié, voilà. J'ai un doctorat en conclusion.
Oh la conclusion à cette émission après une demi-heure de.
Mais c'est vraiment le mot de la fin. Il faut se rendre compte que le pouvoir de l'amitié, c'est le mot de la fin. Et ben, moi, j'aime beaucoup cette conclusion pour l'émission. Merci à Joachim d'être venu. Merci à Melouane.
Merci à moi.
Et on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, jeudi à 10h pour la prochaine émission. Bonne journée à tous.
Salut.
Salut.